En coloc. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Académie vous propose d'écouter 5 interventions d'académiciens des sciences morales et politiques et de l'Académie pontificale de Rome dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu. Celui-ci s'est déroulé à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris fin janvier 2008 en lien avec l'Institut de France et l'Académie pontificale. Dans cet enregistrement, retrouvons François Terret, président pour l'année 2008 de l'Académie des sciences morales et politiques, sur la définition de l'identité dans les textes de droit. Dans le dictionnaire de l'Académie française, l'identité, sur un plan juridique, correspond à la personnalité civile d'un individu, légalement reconnue ou constatée, établie par différents éléments d'état civil et par son signalement. Qu'en est-il de la vision de François Terret ? Écoutons-le tout de suite.
Le texte le plus célèbre du Code civil, c'est, me semble-t-il, l'article 134, alinéa premier. On le connaît, on le répète, on le fait réciter par les étudiants. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Banalité apparente et pourtant banalité qui doit avoir trouvé dans son ancienneté une force particulière de permanence. Car enfin, ce texte, si on relit Doma, dans les lois civiles, dans l'ordre naturel, qui retrouve-t-on cette formule les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. C'est Doma, c'est le XVIIe siècle, et c'est cette formule de Doma qui gouverne encore les relations contractuelles dans l'univers. Donc, rien ne change et tout est pareil, à ceci près qu'il y a dans le Code civil un mot, un adverbe qui s'ajoute à la formule de Doma, légalement formé. Et on se demande alors si cette adjonction du mot légalement formé, émanant donc de Tronchet et Portalis and Co, a une signification particulière, et je me dirais plutôt, pourquoi est-ce que Doma n'a pas mis légalement formé. Mais Doma était janséniste. Il a été pieusement copié d'ailleurs par D'Aguesseau, qui était janséniste. Et le monde universel du respect des obligations se ressent de cette origine. Mais chez Doma, il ne s'agissait aucunement d'affirmer que cette obligation résultant d'un accord des parties était en quelque sorte le signe simplement d'une expression de la liberté. Car Doma s'en explique lui-même. C'est tout simplement pour respecter la loi divine et que les conventions peuvent tenir de loi à ceux qui les ont faites et cette loi divine qui commande la justice et par voie de conséquence le respect de ses engagements par ceux qui les ont pris. Et les rédacteurs du Code civil n'allons pas jusqu'à dire, comme on le dit trop volontiers aujourd'hui, que par ce mot légalement ou par cette expression tienne lieu de loi, ait voulu affirmer d'une certaine manière simplement la nécessité de la confiance contractuelle. C'est faux. Il suffit de lire les travaux préparatoires du Code civil et d'y voir ceci d'un tribun au sens du tribunat, pas au sens actuel. Il est du devoir du législateur, dit le tribun Favard, il est du devoir du législateur de forcer les hommes à voir des lois dans leurs contrats. Ils doivent y voir des lois dans leurs contrats. C'est donc cette puissance législatrice du contractant qui est évidemment le signe même d'une permanence de l'engagement jusqu'à ce que ripère entre les deux guerres, face au changement interminable des lois et incessant des lois qui ne datent pas du tout d'aujourd'hui, finissait par dire que le contrat est devenu plus stable que la loi. Plus stable que la loi est devenue instable et le contrat aussi, dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Et alors, dans ce climat des derniers siècles de l'ancienne France, au XVIIe, XVIIIe, Cela n'a pas été indifférent dans ces deux siècles à la pensée philosophique. Et je voudrais, au XVIIe et au XVIIIe siècle, m'emparer de deux auteurs qui, étant philosophes, parlaient encore clairement des choses du droit. Le premier, c'est Descartes, face à la mentalité changeante de l'individu. Ce passage célèbre du discours de la méthode. « Je mettais entre les excès toutes les promesses par lesquelles on retranche quelque chose de sa liberté. » Non que je désapprouvasse les lois qui, pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, permettent, lorsqu'on a quelque bon dessein, ou même pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, et qu'on fasse des vœux ou des contrats et qui obligent à y persévérer, mais à cause que je ne voyais au monde autre chose qui demeura toujours en même état et que, pour mon particulier, j'eusse pensé commettre une grande faute de bon sens si, pour ce que j'approuvais alors quelque chose, je me fusse obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu'elle aurait peut-être cessé de l'être, ou que j'aurais cessé de l'estimer telle. » Et ben voilà l'identité changeante de l'individu, et qui, par la bouche de Descartes, montre bien qu'il faut se méfier des engagements et des contrats, ce qui dispense alors évidemment tout sujet de colloque sur l'identité changeante de l'individu. Mais l'autre attitude, qui remonte aussi à cette idée du caractère changeant, de la personnalité, de l'esprit et même de l'identité, sans encore avoir apprécié ce que c'est que cette identité et l'identité de l'identité, c'est Rousseau. Et j'avais cru lire dans Gilson un passage célèbre, mais il ne citait pas la nouvelle Héloïse, et j'ai été obligé, en vue de des communications d'aujourd'hui, de relire l'été dernier la nouvelle Héloïse. Je tiens à vous dire que j'estime avoir, pour cette seule raison, droit à votre reconnaissance. Et dans une lettre de Monsieur de Volmar à Madame d'Orbe, évoquant notamment les incertitudes et les variations de l'amour, il est dit « Tout change dans la nature, il est dans le flux continuel, tout est dans le flux continuel et vous voulez inspirer des feux constants. Et de quel droit prétendez-vous être aimé aujourd'hui parce que vous l'étiez hier? Mais changer sans cesse et vouloir toujours qu'on vous aime, c'est vouloir qu'à chaque instant on ne cesse de vous aimer, ce n'est pas chercher des cœurs constants, c'est en chercher d'autres aussi changeants que vous. » C'est évidemment toute une philosophie, c'est bien l'engagement, c'est bien la promesse qui est au cœur de nos réflexions d'aujourd'hui et sur lesquelles, par près cette matinée si riche, je voudrais dire quelques mots. Mais pour comprendre ce que c'est que le droit, ce que c'est que la promesse qui peut être justement apte à déterminer, ce que c'est que l'identité de celui qui a promis et de celui qui n'exécute pas forcément sa promesse ou qui, par les allers et retours de la volonté qui conduisent à la formation du lien contractuel, il n'est pas inutile de voir que dans le temps béni, heureux, lointain, où le contrat n'était jamais qu'un contrat instantané, il n'y avait pas besoin de savoir si, évidemment, la mentalité changeait d'un moment à un autre. C'est l'insertion du futur, de l'anticipation dans le mécanisme contractuel, qu'Arbonnier l'a superbement montré, qui a expliqué alors le problème ancien, à partir d'un certain moment, l'évolution du droit romain, de la promesse de tenir ses promesses. Et cette insertion du contractualisme dans les relations humaines, mais d'un contractualisme voulant appréhender l'avenir, qui a évidemment rendu difficile les questions qu'aujourd'hui nous nous posons. Et elles se posent non seulement dans le domaine contractuel, cette recherche de l'identité, nous ne devons pas seulement la mener dans le domaine des rapports patrimoniaux, mais dans tout le domaine du droit des personnes et de la famille aujourd'hui, puisque ce qui caractérise le droit des personnes et de la famille depuis 50 ans, c'est l'insertion du contrat, c'est la rénovation contractuelle des mécanismes familiaux, c'est le changement de régime matrimonial, c'est le divorce par consentement mutuel, ce sont les accords en matière d'éducation des enfants et en matière de pacte sur succession future. Et alors, il s'agit de savoir comment cette insertion du futur dans le mécanisme contractuel n'est pas de nature à compliquer les choses, mais à inciter les juristes à essayer de contribuer, de coopérer avec d'autres savants sur les rapports de l'identité et du changement. Disons que sur ce point, j'ai presque envie de prononcer, de répondre à la question posée en allant me promener du côté de la psychologie, de la sociologie et de la morale pour voir si, à travers tout cela et ce que ces formes ont pour la fondation, le fondement du droit, une valeur suffisamment claire et précise. C'est, au fond, écrit un auteur, avec la question de la permanence dans le temps, que la confrontation entre deux conceptions de l'identité, écrit Ricoeur d'ailleurs dans un passage justement, je vous rejoins Monseigneur quand vous citiez un certain livre de Ricoeur que justement les grands esprits se rencontrent, se rencontrent dans la lecture de Ricoeur, mais s'il vous satisfait pleinement, moi je vais mettre après quelques réflexions formules de critique. Ricoeur a quand même raison de distinguer deux formes de l'identité, et vous l'aviez rappelé tout à l'heure avec éclat. Et ce sont les deux formes de l'identité qui d'ailleurs reposent sur le latin. Ricoeur, je ne le savais pas si latiniste, mais il distingue bien deux formes de l'identité à travers deux mots latins, idem et ipse. Et c'est peut-être à la cause de cette distinction idem et ipse que, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis un pâle imitateur. Le juriste est toujours imitateur, vous savez. Il fait avec ce qu'on lui donne. Il peut pas espérer pour entreprendre. Il faut qu'il réussisse pour persévérer. Idem, c'est le même. C'est le même, le tatin idem. Et voilà que par un néologisme qui n'est pas tellement pleinement satisfaisant, Ricoeur parle de la mêmeté. C'est un concept, c'est le concept philosophique de mêmeté, c'est de l'idée qu'il y a une identité entre des personnes, ce qui conduit à combattre la discrimination, qu'il y a une identité quantitative, qu'il y a aussi une identité de ressemblance. La ressemblance, ils sont les mêmes au fond, on ne les changera pas, ce sont les mêmes, ce sont les universitaires, ben ils sont les mêmes, n'est-ce pas, les universitaires, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais ce sont les mêmes, et même dans la manière de se juger les uns les autres, la mêmeté du collègue, la mêmeté même à l'académie du confrère. Disons que ce qui est le plus important, c'est l'identité dans le temps. Et cette mêmeté, on la retrouve dans le temps, et c'est l'insertion justement dans le temps de cette difficulté qu'il y a à découvrir ce qui est permanent. La mise en série de changements faibles, écrit Ricoeur, cette mise en série de changements faibles pris à un ne menace pas la ressemblance sans la détruire. La voiture, prenons la voiture et comparons la voiture à l'homme. Vous changez l'embrayage, vous changez les freins, vous changez la carrosserie, et même le moteur, qui est le cerveau de la voiture. Alors là, neurologue, au rendez-vous. Eh bien, c'est toujours la même voiture. Et il n'y a plus rien du départ, il y a tout à l'arrivée. Et il y a un peu comme dans l'homme, qui a peut-être obtenu des greffes de foie, du cœur, de tout. Et puis, c'est encore le même. Et le cerveau, on se demande. Le visage, quand même. Bon. Et alors, là, on voit bien que c'est la mêmeté, c'est le même, c'est le même. Par exemple, on dit que les vieillards deviennent méchants. Bah, ils sont les mêmes, quand même, qu'ils étaient, mais ils n'étaient pas forcément méchants, hein, je ne prends que cette hypothèse. Mais c'est la mêmeté, c'est au fond ce que dit Ricoeur, la structure même d'un outil, la structure même d'une personne. Cette sorte de substrat que constitue son caractère. Et alors Ricoeur se débarrasse de cela. La mêmeté, ça ne nous suffit pas pour discerner l'identité de la personne. Ce qui compte, c'est ce qu'il appelle l'ipséité. Et l'ipséité, vous l'avez évoqué, moi je ne ferai donc que répéter rapidement, c'est cette forme, écrit-il, de permanence dans le temps, qui ne soit pas réductible à la détermination d'un substrat, d'une structure. Il ne s'agit plus de résoudre, dit-il, la question « quoi ?» ce que vous êtes, ce que j'essaie d'être. Mais c'est non pas le « quoi », dit Ricoeur dans sa terminologie, n'est-ce pas, qui est phénoménologico, psychologico et hermético-philosophique. Mais c'est simplement cette idée que, au fond, cette idée qui se dégage de la notion de caractère qui était dans la même T, qui t'explique que finalement, ce sont deux choses différentes et que ce qui fait, écrit le philosophe, ce qui fait la différence, c'est que dans un cas, il s'agit en quelque sorte d'une structure de la personne, et de l'autre, c'est quoi? C'est la parole donnée. Et c'est donc tout d'un coup, voilà l'article 1134, alinéa 1er du Code civil qui apparaît de manière involontaire d'ailleurs dans la pensée du philosophe. Et alors, c'est pourquoi on se dit, le juge dit, bon, c'est très bien tout ça, mais où en est-on? Pourquoi même, s'en tenant à l'ipséité, pourquoi l'individu en tant que ipsé tiendrait-il davantage ses promesses? On est un peu à la case départ, et le juriste est exigeant, il voudrait savoir, ben oui, d'accord, merci, monsieur Ricoeur, c'est l'ipséité, mais ça ne me suffit pas nécessairement. Et c'est à ce moment-là que le philosophe esquive le problème. Et tout d'un coup, nous fait pénétrer, mine de rien, sur le terrain de la sociologie. Et en effet, je le lis, il nous dit, ben effectivement, on ne peut pas attendre de la promesse l'explication de la promesse. Et que la promesse ne se justifie pas en elle-même, puisqu'il faudrait une promesse de la promesse pour la justifier. Et nous voilà dans la probatio diabolica. Et alors voilà que le philosophe en difficulté se réfugie dans la sociologie. Et il nous dit qu'il faut, pour comprendre cela, se reporter au rapport à l'autre. C'est parce qu'il y a un autre qu'on doit respecter sa parole. Et puis comme ça ne suffit pas, alors la philosophie américaine est appelée à la rescousse. Et puis John Rawls, dans l'une de ses théories, nous apporte la réponse. Et nous l'apporte de la manière suivante, c'est que l'opération juridique est un rapport triangulaire. Et que c'est la société, c'est le substrat social qui explique que l'on doive respecter sa parole. Très bien. Le philosophe Rawls en difficulté nous dit, c'est parce qu'il y a un quasi-contrat social. Ah, mais voilà encore que le juriste est ravi. La théorie du concept du quasi-contrat qui croyait mort depuis le droit romain, mais qui survivait quand même dans certaines formules du Code civil, et qui donne lieu à des questions d'examen merveilleuses, donc il faut les garder. Il faut garder le concept. Mais on ne pensait quand même pas que nous viendrait par un vent d'ouest l'explication par un quasi-contrat préalable à la signature du contrat, l'obligation de respecter celui-ci. Alors, on se dit que finalement, c'est autre chose, ce quasi-contrat préexistant repose de quoi? Sur une obligation de fidélité. Tiens, on est passé par un tour de passe-passe de la psychologie à la sociologie, de la sociologie à la morale, terrain mouvant, si on veut tenir à une pensée correcte. Et la fidélité, la voilà au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir ses promesses. Et Anna Arendt le dit, ce qui fait que la promesse est une réalité, non pas seulement en elle-même, mais elle est triangulaire. Et tout d'un coup, le juriste est ravi. Parce qu'on lui a bien expliqué depuis longtemps qu'il y avait deux effets du contrat, l'effet obligatoire, puis l'opposabilité au tiers. Eh bien, les tiers font partie du rapport obligatoire, et cela nécessairement. Alors, finalement, C'est tout de même au père Montaigne qu'il est peut-être, avant de quitter, avant de glisser déjà vers un moral, le père Montaigne, et qu'il est peut-être utile d'aller trouver une réponse. Car Montaigne, qui a bien perçu le problème de la promesse et du respect de la parole donnée, de dire « ce n'est pas parce que je suis moi-même et que je n'ai pas changé que je vais respecter mes promesses », il l'a dit, noir sur blanc, puisque tout change. Puisque le doute chez Montaigne, c'est le doute pyrrhonien, oui, oui, non, c'est peut-être le doute méthodique, mais le juriste, lui, il a son doute. Il a son doute à lui, le juriste. Et ce n'est ni le doute des sceptiques, ni le doute de Descartes. C'est le doute qui décide. Car le juge, le juriste, qui doute, qui doit douter, doit aussi décider. On attend de lui la décision. Le droit est un doute qui décide. Et par conséquent, on se dit qu'il doutait, mais il avait bien compris quand même le sage de Bordeaux. Car il dit, il écrit, « Je respecte ma parole pour établir mon identité, et non pas le contraire. Et ce n'est pas parce que je suis identique que je tiens ma parole, c'est parce que je tiens ma parole que je suis identique, que je retrouve mon ipséité moi-même. » Pas mal, pas mal pour le sage, qui avait su d'ailleurs inspirer Pascal, mais je ne veux pas m'aventurer là devant un grand spécialiste de Pascal. « Je ne suis le même que parce que je m'avoue le même. Je prends à mon compte un certain passé comme le mien. Et parce que j'entends dans l'avenir reconnaître mon engagement présent comme étant toujours le mien, signé Conche. » Je m'abrite derrière les bons philosophes. Et alors, la fidélité, elle est au cœur du rendez-vous. La fidélité est une vertu de la mémoire. Ce n'est pas la mémoire, la fidélité. C'est dans tout ce que rétablit l'anamnèse, ce choix que l'individu fait, ce choix de la bonne mémoire qui n'est pas toujours bonne. La mémoire, le souvenir précis n'est pas toujours aimant et respectueux. C'est autre chose. La fidélité est le contraire, non pas de l'oubli, bien au contraire, mais de la versatilité frivole ou intéressé, du reniement, de la perfidie, de l'inconstance. Alors, social, moral, psychologique, finalement, on retrouve bien les deux grands courants de la pensée philosophique. En philosophie du droit, il y a deux manières. Et malheureusement, l'une comme l'autre échoue. La première manière, c'est malgré tout de dire, et Michel Villers en est un des derniers démonstrateurs, que le droit est dans les choses. Mais il n'est pas seulement dans les choses, car s'il n'était que dans les choses, il ne suffirait pas à répondre à ce qui est la demande de la volonté. Tout ce qui, donc, va dans ce sens pour n'expliquer le droit que par cette référence à ce qui est dans les choses, échoue à l'arrivée. Mais si l'on se réfère à l'autre conception, à l'autre courant philosophique, eh bien c'est le contraire. C'est tout est dans la volonté, mais tout n'est pas non plus dans la volonté. Et c'est justement ce mouvement éternellement circulaire du droit qui va du fait au droit et du droit au fait, qui est l'explication du droit, car le fait, c'est du droit aussi, puisque le droit s'y intéresse. Et alors, nous en revenons à la détermination du moment précis où se forme la promesse. Bien sûr, c'est la formation, le contrat légalement formé. Il est formé, mais il y a déjà eu bien des promesses avant qu'il ne se forme. Et il y aura peut-être ensuite d'autres promesses de réaménagement de ce contrat. Mais le point fixe est quand même le moment de la formation du contrat. Et curieusement, le droit de la consommation, qui nous ravit, qui dérange tout le monde, et qui fait considérer que les consommateurs sont des personnes à protéger, comme les prodigues, les faibles d'esprit, les imbéciles, etc., nous a fourni, dans la formation du contrat, un renouveau complet. Ce renouveau complet est lequel? Eh bien, c'est que il y a deux méthodes pour revenir sur sa parole donnée au producteur ou au distributeur de la part du consommateur. Ou bien, C'est une manifestation contraire de volonté qui s'établit, se manifeste avant la conclusion finale du contrat, avant qu'il ne devint parfait. Et ça, c'est ce qu'on appelle en droit maintenant le regret. L'aménagement du regret, qui au fond ne considère pas qu'il y ait une véritable immoralité dans cette possibilité, c'est au fond un acte volontaire, le désir que l'acte ait été différent. On a voulu acheter. On a voulu acheter les appareils électroménagers que le distributeur, le revendeur vous vient. Ben, on peut maintenant encore revenir en arrière. C'est une parole qui n'avait pas été donnée suffisamment nettement, qui était en l'air. C'est le regret. Et puis quand le contrat a été formé, alors c'est autre chose. Et les juristes réinventent tout. Ils sont quand même, ils connaissent la chansonnette philosophique. Et on dit, mais là, c'est le repentir. C'est donc autre chose, n'est-ce pas? Avant, on regrette, après, on se repent. C'est déjà une vertu que de se repentir. C'est pas mal. Et alors, évidemment, les esprits, les septuagénaires, au plus, qui s'interrogent et qui reviennent vers leurs études de philosophie, où on leur demandait de disserter sur le plaisir, le bonheur et la joie, ou bien sur le regret, le repentir et le remords, se demande alors aujourd'hui où est passé le remords. Et le remords, la morsure qui torture le cœur après une action coupable, qu'est-ce que le droit en fait? Eh bien, si le droit n'en fait pas grand-chose, c'est parce que, finalement, l'idée même du remords correspond davantage à la vision orientale du droit, à la vision orientale suivant laquelle on repose les conceptions sur la civilisation de la honte. Le remords se réserve et se lie à la honte. Mais en revanche, la sanction, le péché, il a une place sans doute, mais que le droit parvient difficilement à lui reconnaître parce que le droit est nécessairement ambivalent. Et que la nécessité de comprendre ce que peut être la promesse de la promesse tient au fait qu'il y a cette volonté et ces choses ou cette volonté qui sont indissociables pour qui veut comprendre ce que c'est que le droit et sa circularité perpétuelle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'y reviens pour finir, les conventions légalement formées tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les deux termes du mot, légalement et loi, sont les deux composantes d'une conception du droit qui fait place au passé, mais aussi à l'avenir, et qui est conduite à considérer que si on doit respecter ces engagements, que ces engagements doivent tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites, c'est parce qu'ils ont été légalement formés et que ces deux composantes du loi, du droit ne sont pas autre chose à propos de la formation du contrat que les deux sources éternelles du droit, le culte des morts et la fidélité. D'autre part, l'échange entre les vivants, c'est la chose.
C'était François Théré, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président pour l'année 2008 de cette même académie. Il s'exprimait sur la notion d'identité dans les textes de droit, dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu qui s'est déroulé fin janvier 2008 à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris. Restez sur Canal Académie et écoutez les interventions des confrères de François Théré. Ainsi, Bernard Roch, membre de l'Académie des sciences, développe le thème des drogues et de la recherche d'identité. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, immunologiste, évoque le thème toujours troublant des vrais jumeaux et de leur identité. François Gros, généticien, membre de l'Académie des sciences, développe la question de la génétique qui nous rend à la fois si semblables et différents. enfin son éminence Marcello Sanchez Sorondo, chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales, développe quant à lui une possible réconciliation sur la notion d'identité pour les scientifiques et les philosophes. Toutes ces interventions sont sur le site de Canal Academy en libre téléchargement. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.